Salut à toutes et tous, à tous les futurs réals, à ceux qui se font des films et ceux qui les regardent, ceux qui matent des séries entre potes ou ceux qui se planquent dans les toilettes du taf pour finir leur épisode. Oui, on vous voit, petit cachotier. Ici, on parle ciné comme on parle entre potes, sans chicher, mais avec passion. Bref, installez-vous, détendez-vous, prenez du popcorn, peu importe où vous êtes. Moi, c'est Mathieu et bienvenue dans Plan Séquence.
C'est quoi faire du cinéma ?
On filme quelqu'un ou on filme caméra ? Oh Lord, I beg you to give
me my money. À la boulette. Écoutez, faites très attention.
Plan séquence 98.7, 95.2, Radio Ondine.
Et un spectacle continue.
Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
Aujourd'hui, attention, émission spéciale. Je ne suis pas seul derrière le micro, puisqu'on accueille un invité qui manie l'image comme un chef, Pierre à la mouton. Il nous accompagnera tout au long de l'émission pour décrypter l'actu ciné, réagir aux sorties de la semaine et nous parler de son métier de vidéaste. Au programme, les sorties ciné du 26, la cinémathèque et préparez-vous à voir une DeLorean passer en trombe, mon banger de la semaine. Bien sûr, on parlera de Pierre Alain et une prog, les amis. Aujourd'hui, on remontera dans le passé aussi musicalement. Je vous ai préparé trois dingueries, du rap vintage français, du classique, du lourd, des prods de malade. Bref, des vrais textes. Pierre Alain, bienvenue.
Merci beaucoup, merci de l'invitation.
Dans Plan Séquence, juste pour les auditeurs, je tiens à le préciser en toute clarté, vous risquez de nous entendre un petit peu rigoler, c'est possible, parce que l'enregistrement n'avait pas commencé, on avait commencé à faire l'émission, j'avais pas lancé le rec. Bref, ça c'est la petite anecdote.
Oui, on a fait un quart d'heure, ça va.
Ça va. En tout cas, bienvenue à toi, merci de me rejoindre.
Merci beaucoup de l'invitation.
Les sorties du mercredi.
Sur Radio Ondine, 98.7, 95.2.
Alors donc on va commencer avec les sorties du 26, les nouveautés de la semaine. Franchement, il y en a pour tous les goûts, n'hésitez pas à donner votre avis sur les réseaux sociaux, c'est très difficile à dire. Et Pierre-Alain, n'hésite pas à me couper si tu as des choses à dire sur l'actualité ciné.
Ça marche.
Donc on va commencer par Nouveau Caïn.
Salut !
Ouais, j'ai rien senti du tout.
Sans déconner ? Est-ce que tu le sens, ça ?
Je suis un mec normal. Mais je sens pas la douleur.
On se bouge !
Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce que je fous ?
Faut que tu fasses gaffe, gros. Tu peux quand même mourir.
Je ferai tout pour la retrouver.
C'est pas la semaine pour arrêter la picole.
T'arrêtes de boire ?
Non, rassure-toi.
Donc David Atkins signe avec Novocaine un thriller teinté d'humour noir qui joue avec les codes du film noir tout en les revisitant sous un angle décalé. Steve Martin incarne Frank Sangster, un dentiste à la vie bien rangée, jusqu'à ce qu'une patiente troublante vienne tout chambouler. Entre vol, mensonge et meurtre, il se retrouve piégé dans une spirale infernale. Le film se démarque par son ambiance clinique et son humour pince sans rire, mais peine parfois à maintenir une tension dramatique forte. Steve Martin, à contre-emploi, offre une performance nuancée, tandis qu'Helena Bonham Carter excelle en femme fatale borderline. Le scénario réserve quelques rebondissements intéressants, bien que certains éléments restent malgré tout prévisibles. On est en face d'un anti-héros classique. Je vous invite à aller voir la bande-annonce. Il y a des franches scènes qui sont marrantes, des grosses scènes d'action. Ça me fait penser un peu à Transporter, par exemple.
Avec Steve Martin.
Non, avec Transporter.
Oui,
avec,
ça fait c'est Transporter avec Steve Martin, du coup.
Bah là, c'est ça, en fait. Au final, c'est un peu ça. Ou Crank avec Jason Statham, ou pareil, c'est de l'action. Ou Beekeeper,
ouais.
Qui est très récent. Pareil, c'est que de l'action, principalement, pendant presque deux heures. C'est un peu le même principe, mais il est, pareil, il est un peu anti-héros, parce que c'est un mec qui costard, cravate, mais qui fait un peu genre le comptable du coin,
okay.
En termes de style. Okay. Pas du tout le mec avec des bras de 20 cm ou 25 cm.
Maître Blanchet, vous êtes bien Patrick Massiera ?
Ça dépend, c'est pourquoi ?
Une cousine de votre père décédée sans enfant.
100 millions ?
Ah, quand même.
Tu racontes pas à tout le monde, hein ?
Non, tu me connais quand même, non ?
Je l'ai dit qu'à Bernard.
Ça te dirait de venir dîner à la maison ?
Alors ? 100 ? Vous verrez, Massiera, vous allez changer.
Bah non.
Mais qu'est-ce que tu fais ?
Bah ça se voit pas, je travaille.
Tu vas travailler jusqu'à quand ?
Bah jusqu'à ce que j'ai tous mes trimestres.
Bon, et les enfants, on leur donne combien ? 5 millions chacun.
Quoi ?
On poursuit avec 100 millions, donc signé Nat Dumont, ouvrier dans une imprimerie. Pour le pitch, Patrick est un vétéran de la lutte contre le patronat. C'est un leader syndical respecté de tous, un maestro des piquets de grève qui porte haut les couleurs de la fraternité ouvrière et du combat contre les trop riches. Mais Patrick vient d'hériter de 100 millions. Sa femme Suzanne, ses enfants et même ses collègues, c'est l'occasion inespérée de changer de vie. Tout le monde, sauf Patrick, désormais syndicaliste multimillionnaire, mais qui n'a aucune intention de bouleverser son quotidien et encore moins de renoncer à ses idéaux. On y retrouve le duo Cadmerade et Michel Larocque avec la question « L'argent peut-il changer les autres quand son cœur bat pour le droit des autres ?» Justement, je vous pose la question. Pour Cadmerade, rien ne changera. Pour sa femme, elle, elle y voit là une porte de sortie pour son statut de prolo, comme attiré comme une pie par ce qui brille, la richesse comme le chant des sirènes. Patrick, lui, la fuit. Ne change rien sauf son rapport aux autres. En voulant rester le même, il y perd son fils, sa femme, ses amis. Mais tout va basculer lorsque son fils a besoin de réveiller le lion syndicaliste qui était son père. Un joli film français, tout en douceur, un humour familial. Le chouette retour de Michel Larocque dans une comédie légère mais qui sent bon la révolte prolétaire. On y lit surtout le dilemme, argent ou raison. Est-ce que l'argent providentiel peut changer quelqu'un qui a un cœur et un esprit qui est tout le contraire, un esprit révolutionnaire ? Un léger anticapitalisme, on y joue quand même avec les stéréotypes sans trop en faire. On n'est quand même pas sur une manif qui ressemble à une foire à la saucisse. Je tiens à le dire, mesdames et messieurs. On terminera avec Je le jure.
La cour, levez-vous s'il vous plaît.
Juré numéro 4, Maison Anthony.
Accusé.
Juré numéro 22, Nucci Fabio.
Qu'est-ce que j'ai fait ?
T'as rien fait. Tu vas juste pour juger quelqu'un.
T'as qu'à leur dire que je l'ai pas lu cette lettre.
T'as pas le choix, c'est une obligation.
Juré numéro 14, Schumann Julia. Veuillez décliner vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, profession, s'il vous plaît.
J'espère juste que c'est pas un pote à moi.
Des florentiers, on a eu des bons ici, hein. Moi, il s'appelait Francis.
Ouais, le rôle, c'est un bon, lui.
J'informe la cour que ce crime est passible de la réclusion criminelle à perpétuité.
Prends con, Fabio. Tu vas juger le diable.
Il y a eu 7 incendies volontaires en 5 ans. Est-ce que vous éprouvez de la culpabilité ?
Là, on parle d'un malade.
Il faut arrêter de l'excuser comme ça.
En quoi, monsieur Fadil, cette peine est trop lourde ?
Je suis dans des problèmes depuis la moitié de ma vie. La prison, c'est pas humain !
Encore un drame signé Samuel Théis. À 40 ans, Fabio se laisse porter par le courant. Un peu largué, il trouve du réconfort dans l'alcool. Et un peu auprès de Marie, pardon. De 20 ans, son aîné, avec qui il entretient une relation secrète. Un jour, il reçoit une convocation pour être juré d'assises. Il va devoir juger un jeune pyromane accusé d'homicide involontaire. Comme la semaine passée avec Magma, on y retrouve Marina Foïs dans le rôle d'une juge d'instruction. Les images que j'ai pu voir, c'est un drame qui donne envie de s'y intéresser. On y décrit les méandres de la vie judiciaire, mais du côté des jurés et pas forcément sous l'axe de la police ou de l'accusé. Bref, on y voit un homme qui, comme vous et moi, un gars qui bosse dans des chantiers et vit dans un quartier populaire. Ça pourrait être lui sur le banc des accusés. Un vrai film, sincère, mais un peu déjà vu dans la trame narrative, même si finalement l'axe de travail est totalement différent. Rien de foufou, sauf les acteurs, alors foncez. Qu'est-ce que tu penses de ces trois films ? Est-ce que ça te donne envie d'y aller ?
Ouais, carrément. Marina Foïs dans du drame, je suis toujours très prenant.
Comme tu me disais
ouais,
juste avant.
Mais c'est vrai que cette nana-là, dans Police ou dans Dupont-Moretti.
Dupont-Moretti, ok.
Marina Foïs aussi dans un film avec, sur une enquête où elle joue Dupont-Moretti, en fait. Pareil, qui est un thriller un peu d'enquête, et, où elle est un rôle dramatique, où elle est toujours très très forte, très très juste.
Alors qu'elle vient des Robin des Bois, rappelons-le, ouais. Canal+, comédie, la grosse émission, et en fait elle est très très forte. Et en fait on en parlait ensemble juste avant, on parlait de Jean, tu me faisais référence à Jean Dujardin
aussi, ouais.
Par exemple, qui est un acteur issu de la comédie, qui est très fort dans les films dramatiques.
Jean Dujardin et Cadmerade qui a eu son César aussi meilleur second rôle dans Je vais bien, ne t'en fais pas, et qui est... Je me suis dit, ça y est, il est parti, il va faire du drame. Bon, il n'a pas fait trop de drame, mais il est très très fort aussi. Donc,
Comme je te disais tout à l'heure, il a fait quand même aussi Baron Noir, qui
ouais,
est encore
Baron
en
audition
sur,
ouais.
sur Canal, qui est une création originale Canal+.
Et du coup, avec le film avec Marina Foïs, c'est le... Il y a eu le film de Clint Eastwood qui est juré numéro 13,
ouais.
Pareil, qui est du côté des jurés.
C'est ça.
Donc c'est un peu la saison des films sur les jurés.
Ouais, c'est pas, ouais. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est un axe cinématographique qui est très peu fait. Quand on regarde la majorité des films qui parlent de jugement ou de tribunaux, c'est soit du côté, soit de la victime,
ouais.
Avec le regard de la victime, le regard de l'accusé, seulement l'accusé, on le voit en prison, etc. On peut parler du film, par exemple, moi qui m'a beaucoup marqué, Un prophète.
Ouais, on va voir.
Qui, ouais, voilà, on est d'accord. On est tous d'accord avec ça. Mais voilà, et...
Si, le film de Justine Triet, quand même. Anatomie d'une chute. Qui, par contre, pour le coup, est... c'est vraiment un film, du coup, sur le procès. mais qui a tous les points de vue, quoi.
Alors, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est un film qui est extrêmement politisé aussi.
Comment ça ?
Je trouve qu'il est très politisé. Il a été repris après, a posteriori.
Ouais, ça...
Il a été extrêmement politisé, je trouve. Mais par contre, il a une très belle carrière internationale.
Moi, j'ai vraiment... j'aime un film, quand je l'ai fini, je fais... Ah ouais, je réfléchis encore. Et le lendemain matin, je fais, putain, j'ai vu ce film-là. Quand même,
Ouais, les films avec à plusieurs lectures.
Ouais.
Ouais, où t'as besoin beaucoup parfois de revoir le film, de te remettre le nez dedans pour vraiment analyser le truc et tout. Dans l'émission de la semaine dernière, je parle de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui pour moi est aussi un film, donc c'est de la SF, mais qui a besoin de plusieurs lectures. Parce qu'il ne faut pas le prendre en tant que film de SF à proprement parler.
Non,
même
tout,
si l'angle, c'est la SF, mais c'est hyper humain, c'est très psychologique et tout. C'est pas du tout un film... Qui est pas à la portée, je pense, de tout le monde, n'importe qui déjà,
non,
je pense.
Non, ça c'est clair.
Mais moi, je
dérive peut-être, mais celui où j'ai passé le plus de temps à me dire, putain, mais j'ai vu ce film-là, c'était La Zone d'intérêt, The Zone of Interest en anglais.
Ok.
L'an dernier, sur les camps d'Auschwitz, sur la famille qui gère le camp d'Auschwitz et qui habite à côté.
D'accord.
Donc, j'ai vu aussi.
J'ai vu des images, ouais. J'ai vu des images.
J'étais trois jours après, je fais, mais qu'est-ce que je viens de voir? C'était incroyable. Le meilleur film de l'année, je pense, que j'avais vu il y a 2 ans maintenant.
Ouais.
Et qui est. Il n'y a pas de caméra qui bouge, les caméras sont fixes. Il y a le son ambiant des cheminées derrière, les bruits des gens qui peuvent se faire tuer et la meuf qui jardine dans son jardin tranquille.
Normal.
Et tu ressors, tu fais, waouh. Et tu repenses.
Ouais, ça doit être spécial quand même avant.
Ah ouais,
parce que tu te dis, t'as un sacré parallèle quand même.
Ah bah ouais.
Quand tu donnes l'exemple de Madame fait son jardin avec les cheminées à côté, quoi.
Et c'était l'actrice qui joue dans Anatomie d'une chute.
D'accord.
Ouais. Okay. C'est la même actrice, donc c'était pareil, c'était son année.
Ah ouais, faut croire.
J'ai Sandra Hüller.
Ok.
Donc bref, ça me fait
réfléchir. Non, mais c'est donc tu conseilles de voir ce film.
La zone d'intérêt.
Ouais.
Ah ouais. Mais
regarde. C'est un drame. On est d'accord.
Ah bah
faut bien le préciser, c'est un drame.
Alors,
ce n'est pas La vie est belle.
Non, mais on voit pas de mort, on voit pas de.
Mais c'est pour l'atmosphère.
C'est que de l'atmosphère.
Ouais.
La caméra ne quitte à peine la maison ou alors dans un lac à côté.
Ok.
C'est que de l'atmosphère, c'est la vie de la famille où le mari dirige Auschwitz et sa famille qui est là avec ses enfants.
C'est fou.
Qui sont dans la piscine tranquille.
Ouais, sacré.
Et les murs de Auschwitz sont, c'est les murs du jardin, quoi. Donc si vous le regardez, mettez un casque, parce que c'est l'atmosphère, le son, et ils ont gagné l'Oscar du meilleur son, je crois. Donc, incroyable.
Et ben justement, transition toute trouvée, mais on reparlera du son tout à l'heure et l'importance du son dans les films.
Yes.
Pour ce premier morceau, on va écouter un très grand classique du rap français avec les X-Men. Et ceux-là, on va pas les voir dans la MCU, avec leur morceau issu du très grand film « Masté va craquer ». Donc le titre, c'est « Retour aux pyramides » de 97, et on se retrouve tout de suite pour la cinémathèque.
Préparé au Big Bang, derrière tous des clics de ouf, des pits à casquette, des big bands.
Qu'est-ce qui se passe, mec?
Les types scandent qu'ils vendent shit, les coachs sentent le fric descend de flics, les petits bandes. Devant les films de gang vite, on t'a Tommy monte, stop ta vidéo de Montana, Tony, pompe ton anatomie.
Vas-y, à pompe, je la
free, pour que tous restent en vie, vos vies sont grillées. Comme la gueule dans un survêt loto, ou un tueur qui laisse sa photo, une lueur dans le regard, un front plein de sueur, une peau noire, un esprit clair pour le Nesby. La rue, mon casino, comme Pacino et Pecci. Entre nous, trop de concurrence comme Coca et Pepsi. Comme si c'était l'épilepsie, ça secoue sur du Mako, ça défilé de filles épilées en brouille.
Hey, mais c'est Mako, ça.
Des bouteilles de whisky se cassent, comme dans les saloons.
On dirait une scène dans Platoon, c'est la merde, frère.
J'ai de la force pour les frères, où est mon trône? Autour aux pyramides, nique les clones,
nique les clones.
J'ai de la force pour les frères. Les étoiles, mes seuls guides. Retour aux pyramides après des
Royal
siècles.
Comme l'aigle, j'ai l'œil du tigre, comme Rocky. Tant qu'ils sont gros, qui par mon style leur drogue. Prenons le fric avant qu'ils crient bigre, merde. T'inquiète, j'ai le croquis, le plan pour les faire hacker. Allume l'herbe pour le partage du blé. Qui prend quoi? Je veux pas me faire doubler. Tu me comprends? Je parle de quiproquo. Direction les Caraïbes, noix de coco. Eau tiède comme le sirocco. Fille exotique pour un mec classe et X comme Rocco. La haine me motive, j'ai un train de plus, je conduis la loco. Motive, détache des wagons, né l'année de.
J'ai eu mon pote ilophile, pour un deal où on pouvait mettre pile au mille, un plan géant comme Shaquille O'Neal. C'était ça ou sinon, des bisous, y'a déjà autant de gars sur le filon que de frères en prison ou de pédophiles aux Philippines. Donc tranquillon, prends quelques kilos de muscles juste en cas d'attaque.
J'ai de la force pour les frères, où est mon trône? Retour aux pyramides, nique les clones. J'ai de la force pour les frères.
les étoiles mes seuls guides, retour aux pyramides après des siècles.
Moi,
choc comme une nonne qui fume le crack à Vincennes. Tatoué, sapé très sexe, bafoué pour Vincennes. Un défilé de 5 Benz avec ringue noir ou un homo qui danse le pogo avec Diskin. Gaz comme un bec benzène, moi c'est breakdance, boogie, les tiens font miskin. Je représente les miens comme Denzel, ex rookie, frère Dean, jamais plein de zèle. Et sur mon polo, des impacts de balles forment mon logo. Les autres font rire comme Bozo, le clown se comporte comme Ozo. Je suis une félonie, anti-viking, je crée des colonies. Black Napoléon, homme caméléon, bing, on pille le pays comme une signe. On envahit Virgin, les villas et les villes, les piscines. On boit de la tequila, ma famille, mon cocon, shogun, nos ex-colons. Embrochés du cul au cou par des ex trop longs, des tresses sous un collant dîme, des teams, des textes trop longs. Je vois rouge comme les pots, parqués dans les réserves. Je couche avec les black squaws, squat d'un Tipeee, pire qu'un hippie. J'respire du pavot, pas vous. Je grave la vraie vie dans le pavé, comme les gars des grottes de Lascaux, comme Vasco. Le gamma, je suis à la recherche d'espace vierge, infiltré comme Donnie Brasco dans la mafia. Donc je suis parano, speed comme Martin Payne. Sous cocaïne, j'ai la haine jusqu'au jean. Calvin Klein, je représente mon clan. J'ai le feeling comme Marvin Gaye, trop de flûteur. Je suis un king comme Martin Luther. Faut qu'on s'organise, qu'on crée nos propres trucs avant que tout explose. J'ai de la force pour les frères, où est mon trône? Retour aux pyramides, nique les clones, nique les clones. J'ai de la force pour les frères, les étoiles, mes seuls guides. Retour aux pyramides après des siècles. Chaque rue, chaque ville, chaque pays, chaque île, chaque continent. Ciel, l'espace, le cosmos, le roue, la galaxie, l'univers, l'infini. Venez au KFC, rejoins ta femme, tout le reste.
La Cinémathèque sur Radio Ondine.
Formidable, c'est formidable.
Aujourd'hui, on va parler d'un monument de la pop culture, que dis-je, une légende du cinéma, un banger depuis plus de 30 ans.
Parti ! Il faut que tu repartes avec moi !
Où ça ?
Mais vers le futur !
Difficile de ne pas reconnaître ce film, Retour vers le futur. Ce film est bien plus qu'un simple blockbuster des années 80, c'est une véritable pierre angulaire de la pop culture. Depuis sa sortie en 85, il a inspiré des générations entières de cinéastes, de scénaristes et de fans, bien évidemment, moi le premier. Son influence est partout, dans les références cachées, donc des easter eggs, des films et des séries, dans les jeux vidéo et même dans la science réelle. Pour les clins d'œil de Retour vers le futur, on a des dizaines, mais je vous donnais que quelques exemples. Le premier, c'est dans Stranger Things, donc la bande de Mike qui regarde le film de 85 pile à sa sortie. Dans Ready Player One de Spielberg, la DeLorean, donc, qui est le véhicule phare de l'Oasis, le monde dans lequel se passe le film en partie. Dans Avengers Endgame, où Tony Stark et Scott Lang débattent du voyage temporel et font référence donc à Marty McFly. Et même dans Rick et Morty, en grande partie une parodie de la relation entre Doc et Marty. Est-ce que tu as déjà vu par exemple Rick et Morty ?
Non, je n'ai jamais vu, mais je connais l'affiche.
Et physiquement, ouais. C'est vraiment la relation Marty, ouais, Marty et Doc Brown. Et même dans la relation de l'ancien avec le jeune, qui fait un peu le mentor, mais qui le tourne un peu à la dérision parfois. Mais voilà. Au-delà des références, c'est Retour vers le futur qui a posé les bases de la grande majorité des films et des séries sur le voyage dans le temps. Avant, les récits de science-fiction, c'était des sujets qui étaient souvent complexes et très hermétiques. Et Zemeckis et Gale, eux, ont réussi à vulgariser le concept avec des règles claires, tout en ajoutant un vrai sens du fun et du rythme. Parce qu'on n'est pas sur quelque chose qui est vraiment... c'est quelque chose que tout le monde peut regarder. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, je vous le conseille, même si à mon avis ça m'étonnerait. Donc pour les plus jeunes d'entre nous... Si vous avez raté ce monument de la pop culture et de la culture geek, foncez, parce qu'il est vraiment drôle.
Il a pas mal vieilli en plus.
Non, il a très bien vieilli.
Peut-être les voitures dans l'espace maintenant qui font un peu moins, on va dire, réaliste que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Mais c'est hyper accessible, c'est pas interstellaire, ouais. C'est tout simple. Quoi.
C'est un bon divertissement,
ouais.
Ça a une bonne morale. En fait, c'est un vrai film américain de l'époque.
Ouais, c'est vrai.
Avec tout le happy end, machin, ouais. L'action sans trop d'action, il n'y a pas vraiment de bagarre, il n'y a pas de gens qui meurent.
Non, il y a un méchant, mais qui nounouille, excusez-moi, j'ai des enfants, mais qui est bête. Ouais. T'as la relation un peu père-fils entre les deux.
C'est ça. entre Doc et Marty. C'est hyper familial. Ouais. Vraiment, c'est les codes des films familiaux de cette époque-là. Quoi. À l'origine, l'idée du film naît de l'esprit de Bob Gale. En feuilletant un vieil album photo de son père, il se demandait « Si j'étais au lycée, en même temps que mon père, est-ce qu'on serait devenus amis ?» C'est ainsi qu'il écrit avec Robert Zemeckis. L'histoire de Marty McFly, d'un ado transporté dans le passé, obligé de faire en sorte que ses parents tombent amoureux pour garantir sa propre existence. Mais le projet manque de tomber à l'eau, le scénario est refusé par plusieurs studios, sauf Disney, qui veut en faire un film plus familial. Et comme je disais, et comme je vous ai déjà dit, je pense que Disney a bien fait, enfin, ils ont bien fait de refuser d'être produit par Disney quand on voit ce qu'ils ont fait de Star Wars. Il faut attendre que Zemeckis connaisse un premier succès avec À la poursuite du diamant vert en 1984 pour que Spielberg accepte de le produire. Ensuite, le tournage démarre, mais avec Eric Stoltz dans le rôle de Marty McFly. Après plusieurs semaines, l'équipe se rend compte qu'il ne colle pas du tout au ton du film, trop sérieux, trop dramatique. La production prend alors une décision radicale et inédite, tout recommencer, mais cette fois avec Michael J. Fox. Et ça a été vraiment, je pense, la meilleure des idées qu'ils ont faites. Pourtant, déjà engagé sur la série Sacrée Famille, je pense que c'est ça, le fait de sa renommée dans cette série-là, qui fait qu'à mon avis, ils ont dû se dire, lui, c'est l'archétype de l'ado américain classique, ça devrait un peu mieux passer.
Qui a un côté humoristique visible plus à l'écran.
Léger. Ouais, c'est ça, plus léger. Fox tourne donc la journée pour la série et passe ses nuits sur Retour vers le futur, dormant à peine quelques heures par nuit, un rythme infernal mais qui paie tant son duo avec Christopher Lloyd, donc, qui interprète Doc Brown, devient culte. L'anecdote folle, à l'origine, la machine à voyager dans le temps devait être un réfrigérateur. Mais pour éviter que des enfants ne tentent de s'enfermer dans leur... Les scénaristes changent d'idée et optent pour une voiture et pas n'importe laquelle, la DeLorean DMC-12 qui à l'époque était un flop commercial. Aujourd'hui, elle est une icône indissociable du film. Est-ce que donc tu connaissais cette anecdote ?
Non, l'anecdote du frigo, non, je ne la connaissais pas. Ni l'acteur d'ailleurs. J'avais l'anecdote de l'actrice, la petite amie de Marty McFly. Parce que la dernière scène du film du 1, c'est l'ouverture de la scène du 2.
C'est ça.
Et si vous regardez les deux d'affilée, vous dites, tiens, il y a un petit truc, l'actrice n'est plus la même. et du coup, l'actrice a changé. Alors, je ne sais pas si tu sais.
Non, mais je veux bien la connaître, cette anecdote.
Elle a changé parce que, alors ce n'est pas une histoire pareil de casting, c'est vraiment sa maman, malheureusement, était très malade. Elle a décidé d'arrêter sa carrière pour retourner chez sa mère et l'aider dans la maladie. Et du coup, ils ont changé d'actrice à ce moment-là.
Mais c'est fou, moi je trouve ça dur d'entendre ce genre de truc parce que tu te dis, c'est un monument ce film quand même. C'est-à-dire, même si on sait que les acteurs, mis à part, Christopher Lloyd qui a fait d'autres films par la suite et Michael J. Fox malheureusement qui lui n'a pas fait d'autres films par la suite.
Maladie, ouais. Et tiens, j'ai une anecdote aussi sur Retour vers le futur, c'est que si vous connaissez Le Seigneur des Anneaux, Elijah Wood.
Oui, il est dedans.
Il joue un petit garçon dans le 2.
On parlera du 2 et du 3 après.
Ah
là, c'est que sur le premier.
Ah, ok, ça marche.
Mais ouais, on le voit, il est enfant avec scène avec la borne d'arcade.
Ouais.
Oh, il est trop drôle, des barres. Parce qu'en plus, moi j'adore Le Seigneur des Anneaux. Et en fait, cette anecdote-là, je l'ai apprise.
D'accord.
Donc, je ne l'ai pas vue, je l'ai apprise après avoir vu Le Seigneur des Anneaux.
D'accord.
Je me suis dit non. Donc ça m'a forcé à revoir le 2 pour le voir 5 secondes.
Bah il a la borne d'arcade et après il part en courant.
C'est ça et c'est tout. Voilà, et on le revoit plus du tout dans le film.
Bah il a 8 ans.
Ouais, il est tout petit. Mais il a la même tête.
Et c'est la même personne.
La même tête quoi. C'est fou. Hein. Il y a des gens comme ça. Il y a aussi lors du tournage de la fameuse scène finale où la foudre frappe l'horloge de Hill Valley, donc quand il pour l'aider à repartir dans son époque, un véritable orage éclate sur le plateau.
Ah ouais ?
Au même moment, l'équipe prend ça comme un clin d'œil du destin et un bon présage pour le succès du film qui finalement, ça n'a pas loupé parce que ça a été quand même relativement un bon succès. Retour vers le futur est un modèle de scénario, chaque détail compte et chaque événement trouve sa place dans l'intrigue. C'est l'un des premiers films à vraiment bousculer et structurer le voyage temporel de manière fluide et accessible. Avant lui, les histoires de paradoxes temporels étaient souvent complexes et réservées aux romans de science-fiction. C'était assez difficile à voir. Grâce à lui, des œuvres comme plus tard Looper, Tenet, Doctor Who, par exemple, qui s'est beaucoup basé là-dessus, une série anglaise initialement. Quand on est geek, ça fait partie des séries qu'on connaît.
Ouais, et puis tous les personnages principaux changent très régulièrement, si je dis pas de bêtises.
En fait, Doctor Who, ça, j'aimerais en parler dans une autre émission, mais... Doctor Who, c'est actuellement, après Dallas et Les Feux de l'Amour, la série qui a la plus grande longévité.
Ah.
Parce qu'en fait, elle a commencé dans les années 50, c'était encore en noir et blanc. Le premier Docteur, dans les années 50 et ça ne s'est jamais arrêté.
Ah,
il y a
okay,
eu,
c'est pour ça qu'il change d'acteur.
Ouais, en fait, il y a eu un arrêt, il y a eu une pause,
ouais.
Ok, et après ça a repris. Parce que, et c'est la justement l'effet scénaristique de le docteur peut changer de peau,
ah,
donc il traverse les âges. Bah, c'est lié à justement ces problématiques de et si l'acteur il vieillit et qu'il est incarné que par la même personne, bah la série elle l'arrêtera à un moment donné. Il va falloir se renouveler, machin et tout. Et en fait, scénaristiquement parlant, c'est pour ça le docteur. Il a cette faculté de changer de peau. C'est
d'accord.
Pour perdurer dans le temps.
Ah,
ah c'est fou, hein, ces petites astuces scénaristiques.
Et ça a révélé un grand nombre d'acteurs.
Enfin, énormément. Ouais. Énormément. Et puis même, cette ambiance de. Parce qu'ils ont gardé, malgré le fait que aujourd'hui, avec le CGI actuel, on pourrait faire des effets spéciaux de fou malade. Ils gardent ce côté un peu monstre en carton-pâte. Parce que c'est vraiment la patte de Doctor Who.
Ouais.
Parce qu'à l'époque où ça a été créé, t'avais pas d'effets spéciaux comme ça.
C'était vraiment ce qu'on avait sous la main.
C'est exactement, des maquettes, etc. Et ils ont gardé cette patte, ce truc qui fait que Doctor Who, c'est Doctor Who.
Ouais.
Parce que tu peux voir l'image d'un monstre, bah, quand tu connais Doctor Who, je veux dire, l'image de Doctor Who, tu sais que ce monstre-là, il vient de Doctor Who.
D'accord.
Quand tu vois une image de, peu importe, de la série, en fait.
Ouais.
Parce que c'est vraiment un côté faux. Bah, les monstres, tu vois très bien que c'est des costumes. Ils ne cherchent pas à mettre des effets numériques à bloc pour que ce soit réel, etc. Non, c'est fait exprès. Ce côté un peu carton-pâte.
Ouais, c'est des Anglais, quoi. On conserve les traditions.
Ouais, c'est un peu ça. Mais ils ont raison, parce que finalement, c'est un perpétuel hommage aux origines de la série, en fait, finalement.
Ah, bah trop bien. Bah, je ne connaissais pas ça.
Ouais, bah voilà.
Trop bien.
Bienvenue dans Plan Séquence. Et même Avengers Endgame. Finalement, parce que vu que ça parle du voyage dans le temps, donc le dernier Avenger, bah finalement, tous les codes, ils en parlent d'ailleurs dedans.
D'accord.
Tous les codes de Avenger Endgame, bah finalement, le premier film à faire du voyage dans le temps pour le grand public, bah c'est Retour vers le futur, quoi. Mm. Donc finalement, tout vient de là. Jouer avec ces codes en expliquant que les règles du film ne sont pas les mêmes que dans Retour vers le futur. Ça, c'est la petite, c'est ce qu'il dit en fait dans Avenger Endgame.
Ah, il le dit clairement.
Ouais, il le dit clairement. Ouais, ouais. En fait, il parle quand Scott Lang. En fait, quand il parle si on change le passé, bah, l'avenir sera différent.
Ah, c'est la théorie du grand-père.
C'est ça. Et il dit, mais ça veut dire qu'en fait, dans Retour vers le futur, on nous a menti, en fait.
Ah, c'est marrant.
Voilà, c'est ça. C'était le petit clin d'œil à Retour vers le futur. Donc, c'est preuve que le film de Zemeckis est devenu la référence ultime, finalement, par rapport à ça. Face au succès colossal du premier film, deux suites sont mises en chantier, donc Retour vers le futur 2 en 89, qui nous propulse en 2015 avec des baskets auto-lassantes, un overboard et un bif devenu milliardaire grâce au célèbre almanach des sports. Fun fact, d'ailleurs, Zemeckis et Gale ne pensaient jamais faire de suite, initialement parlant. D'où cette fin ouverte avec le doc qui revient. Et ben, à la base, il n'y avait pas de suite, initialement. Ils ont laissé ouvert le truc de s'il y a besoin,
est-ce que plus c'est tard, on en fait. Qui leur a dit.
Voilà, c'est possible. Ah, un grand spécialiste des suites. Un grand spécialiste des suites. Et enfin, Retour vers le futur 3. Donc en 90, personnellement, c'est mon préféré. Personnellement.
Excusez-moi, j'ai laissé un blanc à cette phrase.
Perso, c'est mon préféré.
Le 3 ?
Ouais.
Bah ouais.
En fait, le fait qu'il aille dans le Far West, c'est cette
idée.
C'est l'ambiance. Ouais, l'ambiance du Far West.
Okay.
J'adore. Moi, je suis un fan d'Adventureland à Disney, quoi.
Ok.
Frontierland, j'adore, tu vois, l'esprit cowboy, Far West et tout, je trouve ça fun de faire le parallèle de lui, il est hyper. Parce que quand ils vont la première fois, ils vont dans le passé, c'est pas si lointain que ça. Ils vont pas 100 ans dans le passé.
Ouais, mais quand ils vont dans le futur, c'est quand même. Ils ont pensé à tellement de trucs. Alors, c'est, bien sûr, il n'y a rien qui est arrivé pratiquement.
Que dalle, rien du tout.
Mais c'est pas les Simpsons où ils sont devins, mais.
Mais
il y a quand même des choses, ils sont dit, ils ont poussé la créativité au max, quoi.
Ouais, à fond, avec la pizza, etc. Pour le futur. Mais je sais pas, j'aime cette romance de Far West, le doc qui arrive tel un héros avec son fusil sniper fait de briques et de broc. Enfin, je trouve ça trop drôle, quoi. Donc, sur le thème du Far West, ce dernier volet conclut la saga en offrant une touche d'émotion avec l'histoire d'amour de Doc à la fin et Clara. Et en refermant définitivement le cycle temporel de Marty, vu que la machine est détruite, moi je pense spoiler personne, même si on le voit revenir et qu'on sait que le voyage dans le temps est encore possible avec le train qui va dans
ça finit avec le train, ouais.
C'est ça. D'ailleurs, il y a eu un dessin animé par la suite, Retour vers le futur, qui a été fait.
Ah bon ?
Ouais. et qui était sur Canal J à l'époque.
Ok.
Donc qui est de notre époque à nous, quand nous on était plus jeunes. Et il faut savoir qu'on est de la même année de 87, donc quand on avait, je sais pas, peut-être 10 ans, un truc comme ça, 10-12 ans. Et en fait, c'est que avec la locomotive.
D'accord.
Il n'y a pas du tout de DeLorean, etc.
Ouais, ils ont vraiment
c'est,
ouais,
c'est que la loco. La suite, quoi. C'est ça, comme Star Wars et Clone Wars, le dessin animé, où tu as une suite à peu près, ou en tout cas quelque chose d'un peu parallèle, où c'est que du dessin animé. Ça reprend vraiment la suite du truc, mais en dessin animé. Bah, là, c'est pareil. Avec ses enfants. Là, c'est que ses enfants, il n'y a pas Marty. C'est que avec ses enfants qu'on voit à la fin du 3.
D'accord.
C'est eux les héros du dessin animé. Robert Zemeckis et Bob Gale ont toujours été catégoriques. Alors je tiens à m'excuser auprès de tout le monde, tous les fans qui font des fan art. Il n'y aura pas de 4. On a beau voir parfois des suppositions. Moi j'ai vu des affiches passer, j'ai vu des bandes annonces, des trailers passer de Retour vers le futur 4 où tu as très envie que ce soit, mais c'est pas possible. Parce que, en fait, ils pensent que sans Michael J. Fox, c'est compliqué.
Bah ouais,
parce qu'il pourra jamais.
Ça perd l'âme du film.
Ouais,
quoi.
Complètement. Et puis maintenant, même Christopher Lloyd, il a plus, même s'il était déjà âgé à l'époque de Retour vers le futur, je pense pas qu'il aurait encore le.
Ouais, et puis les gars, laisser des classiques là où ils sont.
Ouais, touché plus. Quoi. Ouais. On a fait assez de mal à certains classiques, je tiens à le dire. Mais voilà. Pour ces petites anecdotes, donc plus de 35 ans après sa sortie, Retour vers le futur n'a pas pris une ride malgré tout. Il continue d'être un incontournable, que ce soit pour ses références à foison, son humour intemporel ou son rythme effréné, que ce soit dans les films, les séries ou les jeux vidéo. Marty McFly et Doc Brown resteront à jamais les pionniers modernes du voyage dans le temps. Est-ce que toi, il y a des choses, par exemple, quand à l'époque de Retour vers le futur, bah nous quand on l'a vu, on était quand même plus vieux que
ouais,
quand
on l'a pas vu
sorti.
À sa sortie,
non,
évidemment.
Pas du tout. Mais ça a fait partie des moi en tout cas de mes films références. C'est ce qu'on voit quand on est gamin, nous à notre époque. Est-ce que c'est ce genre de film-là qui t'a influencé toi pour devenir plus tard avoir envie de travailler peut-être dans le cinéma initialement, avoir bifurqué vers les films plus de mariage, ce que tu fais et que tu fais très bien d'ailleurs. Mais est-ce que c'est ce genre de film-là qui a pu motiver ta créativité d'enfant ?
Non, jeune, c'était plus les petits sketchs comiques, les Robin des Bois. Parce que j'avais écrit une petite scène, des petites pièces de théâtre à l'époque. C'est beaucoup l'écriture.
Des pestacles.
Non, même BTS, des trucs comme ça, mais les Robin des Bois, Elie Semoun à l'époque.
Avec les petites annonces.
Ouais, avec un pote, on copiait-collait, on mettait une caméra, on refaisait exactement la même chose. Donc maintenant les influences aujourd'hui, j'arrive à me dire ok ça maintenant ça m'inspire ou ça peut m'influencer. À l'époque non, j'étais un spectateur, un jeune spectateur.
Ça a juste nourri ton truc quoi.
Ouais, tu peux te dire ok on peut faire plein de trucs.
Ouais c'est ça.
Mais non moi c'est plus des Spielberg, plus tu vois Jurassic Park que je pourrais regarder encore aujourd'hui tous les jours. Ça oui.
Un
tu
banger.
Dis...
Ouais. Un banger.
Ouais.
Mais les ceux de l'époque. Mais que même que le premier.
Que le premier. Ouais.
Même que le premier.
J'ai été hyper étonné de voir que c'est Spielberg qui avait fait le deuxième.
Ah, c'est lui qui a fait le deuxième
c'est
aussi.
C'est lui qui a réalisé le deuxième.
Ah, je suis déçu.
Ben ouais.
Il est pas terrible.
Je fais, non, on lui a racheté la franchise. Non, il l'a fait.
Non, non.
Ouais, le premier, non.
Ah,
donc,
puis là,
ouais,
les
des
nouveaux,
choses
là.
Comme ça, ouais, qui. Ça, oui, j'arrive. Je vois. Ouais, ça m'a ça, peut-être poussé à me dire il y a des trucs qui peuvent être faits.
Ouais.
Mais non, la toute base, je vais y repenser l'autre fois. Quand j'étais petit, je voulais devenir caméraman parce que j'avais vu une émission télé d'un mec qui suivait des policiers et il rentrait dans une banque. Et je fais, le mec, il a une caméra, il est rentré dans la banque et potentiellement il y a des braqueurs. Mais j'étais tout petit, c'est génial comme métier.
je
voulais pas
être
le film, je voulais être le mec derrière la caméra.
Mais
c'était beaucoup les sketchs de l'époque, plus les Robin des Bois, Robin des Bois, Elie Semoun, Palmachou après un petit peu.
Ouais, plus tard, pas le
plus tard.
Ouais, plus tard.
Mais
ouais.
En rêve ciné, maintenant, on est quand même sur de l'actuel.
Ouais.
Ou alors juste, j'ai un modo, on va dire, parce que je fais des films à mariage, on va en reparler après, mais assez cinématographique. J'ai un but, c'est de me dire, il faut que ça vieillisse bien. Et sans me comparer, mais je me dis, Le Parrain, tu regardes aujourd'hui, il a bien vieilli.
Ouais.
Parce que le mec, c'est pas emballé à faire des effets, des trucs.
Très classique.
Voilà, très classique.
Et très sobre.
Bah, ça vieillit. Ça vieillit bien.
Mais ça, on en parlera si tu veux, mais ça, c'est parce que, en fait, déjà d'une, le storytelling, il est impeccable.
Oui.
Pas besoin de faire des effets à la mort moelleux, même les transitions et tout, quoi. Pas besoin. Les jeux d'acteurs, ils sont juste exceptionnels. J'ai fait une vidéo là-dessus parce qu'en fait, Le Parrain, parce que moi je suis un grand fan de cette franchise, c'est le premier DVD que je me suis acheté.
Ah ouais ?
C'est la trilogie du parrain.
Extra.
C'est vraiment le tout premier. Je suis un grand fan des films de mafieux.
Ouais.
Genre Casino, etc.
Les Affranchis.
Les Affranchis. Bah, les Affranchis.
Je crois que les Affranchis.
Les Incorruptibles, tout ça, tu vois.
Les Affranchis, je crois que c'était mon premier DVD.
Ouais, mais c'est de la tuerie ces films. Et en fait, le parrain, ça a mis en place, comme là pour Retour vers le futur et le voyage temporel, ça a mis en place la stature du mafieux.
Oui.
Parce que si tu réfléchis.
Ça n'existait pas avant, ouais.
Alors, t'avais pas de film de mafia comme non. ça, et même le parrain qui te parle un peu comme ouais. ça, avec le gros fauteuil dans le bureau, etc., etc. Tous les films qui en ont découlé derrière,
oui, ils ont pris les mafias, ce code-là, ouais.
C'est ça. Mmh. Le parrain, c'est le même parrain que dans le parrain. Pourtant, c'est plus le parrain. C'est plus le film Le Parrain.
C'est drôle, c'est vrai.
C'est les mêmes codes. Mais même dans Les Simpsons.
Ouais, bah oui.
Gros Tony.
Oui, ils reprennent ce code-là.
Ils parlent comme ça, Gros Tony.
Bah, ils prennent l'accent italien.
Hyper appuyé, de fou. Le côté les costards à rayures, etc. C'est vraiment le stéréotype du. Le vrai stéréotype du mafieux, quoi.
Exactement, ouais.
Et c'est vraiment ça.
Alors que c'est Brando qui l'a juste créé, quoi, le personnage.
Exactement, et à la base, il devait même pas parler comme ça, parce qu'il devait pas parler comme ça, c'est lui qui s'est foutu du coton ouais. dans les joues pour faire ça.
Ouais.
Comme la première scène, on le voit, il a un chat sur les genoux. Et ben le chat était pas prévu, ce côté, parce que je sais pas si tu connais cette scène-là, bah si t'as,
ah oui,
t'as vu le parrain, il joue à un moment donné avec un chat. Il y a un acteur ouais. qui vient le voir, enfin non, un chanteur qui veut jouer dans un film, on lui refuse le film, et il joue avec un petit chat sur le film, etc. C'était pas prévu ça du tout, c'était un chat errant à la base.
Ah ouais.
C'est, ouais, c'est l'acteur qui l'a pris, qui a joué avec en fait.
L'a récupéré.
Ouais, et en fait, ils ont gardé cette scène, et ça a mis le truc du le mafieux. Où le grand méchant a une scène dans un fauteuil avec un chat. Le méchant de l'inspecteur Gadget.
Oui, on le voit jamais, il a son chat dans son fauteuil qui tourne.
Le méchant dans Austin Power.
Ouais.
Pareil, grand fauteuil, t'as toujours cette scène-là. Grand fauteuil, le méchant, le chat. Et... ça vient du parrain aussi.
Ah, trop bien.
C'est fou, hein.
Et juste d'un truc qui passait, quoi.
Et ça a mis en place un code. Qui maintenant est repris partout.
Ouais.
Série, film, peu importe, c'est tout le temps la même chose. Toujours le même truc. Maintenant, on va parler ensemble du banger de la semaine.
Le banger de la semaine. Radio Ondine 98.7 et 95.2.
Donc, mon banger de la semaine, on va parler de The Electric States. Alors, ça, c'est le nouveau film des frères Russo. Il vient juste de sortir sur Netflix. Et je l'ai regardé ce week-end. À la base, je ne devais pas parler de ça. Je devais parler de The Last of Us. Qui est sur Amazon,
okay.
Donc qui est la série tirée du jeu vidéo. Et en fait, quand j'ai vu ce film, j'ai dit non, je vais parler de ça.
Ah, The Last of Us, tu veux dire.
Last of Us, pardon.
Excuse-moi, bah, j'ai sur ton accent.
J'ai un très mauvais accent, je sais à chaque fois.
Avec Pedro Pascal.
Moi, quand on m'écoute, on me dit non, mais arrête de parler en anglais.
Last of Us, Pedro Pascal.
Je fais des efforts. Mais ouais, c'est ça exactement, qui est une série pas trop mal. Moi, j'ai des choses à dire là-dessus parce que je suis un geek et j'ai joué aux jeux vidéo. Donc forcément, je fais un parallèle. Ah, mais moi je trouve que c'est pas bah bref j'en reparle ouais. Je trouve pas ça très réussi personnellement.
Ah ouais,
ouais, j'aime pas trop.
Oh.
J'ai pas du tout matché alors que le jeu est juste insane, mais vraiment après peut-être que c'est par rapport à l'époque
la
quand
photo...
The Last of Us est sorti en jeu vidéo, ça remonte quand même à plusieurs années.
Ça fait longtemps, ouais.
Et c'était l'un des premiers survival horror après Resident Evil, qui a un autre niveau, parce que là, c'était des zombies, enfin, c'était des zombies aussi, mais c'était plus genre The Walking Dead, tu vois.
Ouais.
Et là, je trouve qu'on touche à un monument du jeu. Donc j'ai du mal, moi, à me dire c'est quelque chose qui est réussi.
Ok.
Fallout.
Ouais.
Ça va, mon accent ?
Fallout.
Je regarde en ce moment.
C'est pas mal aussi.
Alors, en fait, je prends ça au second degré.
Bah, par contre, Fallout l'inverse. J'ai pas joué au jeu. C'était un jeu d'ordi, si je dis pas de bêtises.
Non, même console.
J'ai pas joué. J'ai préféré Last of Us. Mais ouais. Oui, c'est un peu. T'as plus envie de rigoler parce que.
Ouais. T'as l'impression que c'est un truc un peu comédie, ouais. Machin. Donc, je trouve ça plus simple à regarder parce que si tu le prends au second degré.
Ouais, exactement.
Alors que
Putain, Last of Us, la photo est incroyable. Je retrouve plein de films du
par
jeu.
Contre, oui. Ah bah, ah. Alors si, t'as du mimétisme.
Ouais, t'as plein de films
entre le jeu.
Ouais.
Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est l'incarnation par les acteurs, etc., etc. Où moi, j'ai du mal.
Ok. Et
mais alors, je pense que j'ai du.
Je te laisserai en parler. Non,
je pense que j'ai du mal. Comme Assassin's Creed.
Il y a une série.
Il y a un jeu. Il y a un film.
Ah, j'ai pas eu.
Il y a un film avec Michael Fassbender.
Ah ok. Ah oui,
c'est
vrai.
Il joue l'assassin.
Et juste une petite anecdote sur Last of Us, après je t'en parlerai plus tard, mais les voix du jeu les personnes qui font les voix dans le jeu.
En français, c'est ceux qui font le...
Non, en anglais.
Non, ouais.
Jouent dans la série aussi.
Ah, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est cool,
bah, Pedro Pascal et Bella, je sais plus, les deux acteurs principaux. Ouais. Et beaucoup qui jouent la voix dans le jeu, jouent leur propre rôle dans la série.
Ça, c'est cool. Ouais. C'est un joli clin d'œil.
C'est un beau clin d'œil.
Ça,
ouais.
C'est cool. Ouais. Donc, cette semaine, je vous parlerai donc pas de série parce que c'est un film. Après Avengers Endgame, les frères Russo reviennent avec The Electric State.
L'insurrection des robots a été violente.
On se replie !
Ils mangent pas, ils dorment pas, ils ferment pas les yeux. Je les ferme, moi.
Lorsque les machines ont dévié des tâches qui leur étaient attribuées, nous les avons exilées. Dans The Electric State. Un territoire sécurisé de 250 000 km².
Vous dites que vous n'avez jamais possédé de robots, c'est vrai ?
Je n'ai pas confiance en eux. Ils ne sont pas comme nous. Alors comment pourraient-ils comprendre ce qui sert le mieux nos intérêts ?
Une fresque de science-fiction inspirée du roman illustré de Simon Stålenhag. Désolé pour la prononciation, c'est comme pour l'anglais, hein. Là c'est du néerlandais ou du suédois.
Ouais, ça, je peux pas reprendre.
Donc c'est un road movie dystopique où on suit une adolescente, Millie Bobby Brown, découverte donc dans Stranger Things, traversant un monde rétro-futuriste en ruine, accompagnée d'un robot et d'un vagabond joué par Chris Pratt, pardon, okay. Notre Star-Lord de la franchise Marvel, pour retrouver son frère. Le film mélange nostalgie des années 80 et technologie déchue. Visuellement, on retrouve la patte des frères Russo. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Paysage post-apo, robot désuet, une ambiance entre rêve et cauchemar. Franchement, côté image, il n'y a absolument rien à dire. Avec un budget colossal et un casting impressionnant, on y retrouve notamment Giancarlo Esposito, l'un des grands méchants de la série Breaking Bad. On en parlait juste avant. Ou encore Stanley Tucci, okay. Qu'on a pu voir dans le film Terminal avec Tom Hanks, par exemple.
Bah, Stanley Tucci,
mais
ouais,
il joue dans plein. Il joue dans. Non, ouais. Alors, en fait, je voulais pas trop dire de sa filmographie parce qu'il y en a. Elle est hyper longue.
Là, vous prenez un de ses films, il est bien, quoi, normalement.
Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et en plus, il incarne vraiment bien souvent les méchants. Ouais. Il a vraiment ce côté, même physiquement, il a vraiment ce côté un peu méchant. Ou dans le récent Conclave. Il joue dans Conclave aussi, qui est sorti il y a très peu de temps. The Electric State s'annonce comme l'un des films SF majeurs de 2025, le tournage réalisé principalement en décor naturel et avec un mélange d'effets pratiques et de CGI. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le CGI, hein, c'est tout ce qui est les images de synthèse, l'ajout numérique sur les films, genre des fonds verts, etc. etc. A nécessité une approche immersive pour capturer l'esthétique unique du roman. Fait amusant, les Russo ont travaillé donc avec l'illustrateur, donc l'auteur de la bande dessinée, pour respecter l'ADN visuel de l'œuvre, comme Sin City.
Okay.
Ou celui
de Tarantino.
C'est ça, et ben ils ont travaillé avec l'auteur. Si c'est Tarantino.
Si, Tarantino. Ah, ouais.
Ils ont travaillé avec l'auteur pour respecter l'identité visuelle de la bande dessinée Sin City. Si le film est une adaptation récente, l'univers de The Electric State a déjà influencé des œuvres comme Love, Dance and Robots, série qu'on retrouve aussi sur Netflix, qui est une très bonne série. D'ailleurs, un épisode, une histoire différente, animé pas animé. Parfois, t'as vraiment du réel. Il y a toujours du robot, de l'IA, ce genre de choses. Hyper cool, un peu du Black Mirror, mais beaucoup animé.
Okay.
En gros, pour faire un parallèle avec une série qui aussi, où tu as
un épisode, une histoire
en grosso modo. Il prolonge une tendance forte dans la SF actuelle, le mélange de nostalgie et d'anticipation, où le passé et le futur cohabitent dans une même esthétique. Une tendance qui se généralise depuis le film Ready Player One, par exemple. On y retrouve une musique vintage, funk, soul, des rêves pop culture ultra présentes. On reste quand même sur un thème classique, rien de bien nouveau. Les protagonistes qui vont changer l'idée du monde sur les robots alors qu'ils sont exclus. Un gros parallèle avec notre univers. On y voit Stanley Tucci camper le rôle d'un visionnaire, un tantinet maniaque. On y voit surtout un Steve Jobs prêt à tout pour les avancées technologiques quitte à mettre en péril l'être humain. Bref, un bon entertainment comme Netflix peut en produire. Plus de 2 heures de film. Un Chris Pratt qui continue depuis Les Gardiens de la Galaxie de camper le rôle de l'anti-héros pince sans rire parce qu'il a exactement, je sais pas si tu as regardé des Marvel.
Les premiers avec Robert Downey Jr.
Donc il y a plus de 10 ans, les Iron Man, premiers.
Après, non, j'ai un peu lâché.
Chris Pratt, c'est Les Gardiens de la Galaxie.
C'est le petit Rocket, enfin le petit...
Où t'as Rocket et Groot.
Voilà.
Les films où t'as Rocket et Groot. lui joue le chef de bande, ok, et en fait il campe le même genre de rôle, okay. Genre c'est un voleur qui au final devient un sauveur de l'humanité,
il joue
de la
Pratt,
galaxie. Mais il continue d'entretenir ses rôles là, en fait,
okay.
À rester là-dedans, je trouve ça un peu dommage.
Bah, comme Dwayne Johnson qui joue ses propres rôles.
Ouais c'est ça. c'est ça. Mais je les trouve très caricaturaux,
okay.
Au final, je trouve ça dommage parce que c'est un bon acteur. Avant oui. Les Marvel, il était pas mauvais. Il a eu une carrière quand même avant de rentrer chez Marvel. Il était pas mauvais, jamais de rôles principaux, mais
il était là quoi.
Ouais, c'est ça. Il était là. Ouais. Il avait, c'est ça. Là, il fait vraiment l'anti-héros. Il reste campé dans ce qu'on a pu le voir au cinéma.
Okay.
Perso, j'ai apprécié le film dans sa forme de divertissement, mais rien de transcendant. Par contre, on est vraiment sur une image quali. Ça, par contre,
ouais.
Ah ouais, dans le désert et tout.
Et c'est que en naturel, presque.
Bah, pratiquement que ouais. Du naturel. Ouais, ouais. Et c'est ça qui est génial. Enfin, c'est vraiment, c'est top. Tu le vois.
Ouais, bah comme Dune, quoi, un peu. Quoi.
Ouais, c'est. Ah ouais, bah, ouais, Dune, on en parlera aussi. Ça aussi, on en parlera. Moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'aime beaucoup. Le premier, la première version, et là, ce qui a été fait récemment.
Bah, Denis, quoi.
Ouais. À 2009, laisse tomber. Enfin, ouais. Bref.
On peut en parler une heure de plus si de 2009.
C'est ça. Ensuite, on poursuit en musique avec un grand monsieur, le Brel du rap français, des textes tranchants qui dépeint souvent la société avec beaucoup de travail d'écriture. Tout de suite, on écoute Oxmo Puccino et L'Enfant Seul, un bond en arrière jusqu'en l'an de grâce 1998.
D'éteindre dans une chambre vide. Tu brilles entouré de gens sombres voulant souffler. Celui qui a le moins de jouets, loin du chouchou. Celui qu'on fait chier, le cœur meurtri, meurtrière et ta jalousie. L'enfant seul se méfie de tout le monde, pas par choix. Mais dépit pense qu'en guise d'amis son ombre suffit. Une solitude qui suit jusque dans le sexe. Mon texte coupe l'enfant seul en deux espèces. Ceux qui baisent à l'excès mais souhaiteraient se fixer à une femme plutôt qu'à mille fesses quand l'autre sort écoute. Souvent la même chanson dans le posté, porte le deuil d'une relation morte et reste l'œil humide. La tête baissée laisse le cœur sur l'estomac, l'estomac sur les genoux ma tristesse n'a d'égal que le coup de gueule muet de l'enfant seul que nul ne calcule. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Mes mots s'emboîtent, les gens s'y voient comme dans une flaque d'eau. Ça leur envoie un triste reflet, mais est-ce ma faute? T'es l'enfant seul, c'est pas facile, on se comprend, peu le savent, que je le sache, ça te surprend. Il mate par la vitre, la solitude qu'il mine fait passer la quinine pour un sucre. Faut être lucide, il faut qu'on se libère, disent-ils, ils n'en discutent pas, confondent la rime et l'acte. La fuite et le suicide impact, une promo sans traque, pas trop de mots. Nobody n'a capté le sage, soit l'envie de se laisser par le coup pendu. Pour punir les parents qui pour aimer l'enfant ont trop attendu. Car si l'amour est une course, l'enfant naît, c'est le départ en tête. L'embêtement qu'en passe-temps on fait des parents bêtes. Maîtrise l'incinant, sentiment en ciment, sinon dans 6 ans on me retrouve ciseaux dans le crâne, dans le sang gisant. Dès l'enfant seul, dis-moi que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, dis-moi que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, dis-moi que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref au fond tous la même souffrance. L'enfant seul, c'est l'inconnu muet du fond de classe. Celui des qui l'on se manqueront comme Coluche. Ou boss dans le hall au groupe massif. Lost dans le steak, haché plantant chaque postulant à son poste. Vu que les conneries de gosses des rues couvrent souvent un jeune qui souffre d'un gros gouffre affectif. Grandir sans paix assez dur, même si la mère persévère, sincère mais pas à trouver ses repères, c'est sûr. Perdre sa mère c'est pire, demande à Pitch t'assure. T'as pas saisi, enlève la mer de la Côte d'Azur. Quand ces gosses poussent leur souffrance aussi, nous savons tous que personne ne guérit de son enfance. Même un torse poilu ne peut oublier sa vie de gosse du divorce, heureux c'est pas son beau-père. L'enfant seul c'est toi, eux, lui, elle.
Oxmo Puccino, voix de Niel.
Dès l'enfance,
je sais que c'est toi.
Viens du débat fond,
des quartiers neufs.
Bref, au fond, tous la même souffrance.
Dès l'enfance,
je sais que c'est toi.
Viens du débat fond,
des quartiers neufs.
Bref, au fond, tous la même souffrance.
Dès l'enfance,
je sais que c'est toi.
Viens du débat fond,
des quartiers neufs.
Bref, au fond, tous la même souffrance.
Dès l'enfance,
je suis sûr que c'est
viens
toi.
Viens du débat fond, des quartiers neufs.
Bref, au fond, tous la même souffrance. Souffrance.
Radio Ondine, votre son, votre radio, en direct sur le 98.7 et le 95.2 et en streaming sur radioondine.fr. Eh ben, merci en tout cas d'avoir partagé cette émission avec nous.
Merci Mathieu.
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour, même endroit, pour un nouvel épisode de Plan Séquence. D'ici là, vous pouvez retrouver l'émission dans son intégralité sur radioondine.fr et suivez-nous bien évidemment sur les réseaux sociaux. Je vous laisse avec Fab. On lèche, on lâche, on lynche, millésime 97. Et on n'oublie pas, allez voir des films, débattez, kiffez, et surtout, n'oubliez pas le popcorn.
Radio
Ondine
98.7, 95.2.
Tu fais du rap, ta caisse l'air claque. Viens, viens, je ferai de toi un crack. Mon fils à moi, c'est faire des thunes. Je m'en fous de ce que tu penses. Si tes ventes avancent, t'en vends en vacances sur la lune. Je vais te présenter du monde, la crème de la crème. Mais tiens-toi bien, ils ont les rênes en main. Je te promets des dates. Et du fric l'Amérique. Si tu t'en tiens à être un perroquet, quand on dit un, tu dis un, deux, tu dis deux, amen, tu dis amen. Et même si tu crois pas en Dieu, je te fais une offre, remplis la demande. On marche en bande, mais n'oublie jamais que c'est moi qui commande. Lèche,
lèche, lèche,
bienvenue dans le showbiz. Fais-moi la bille, je ferai le point. Et un
lèche, lèche, lèche,
bienvenue dans le show. Dans le showbiz, fais-moi la bille, je ferai le point. Hein. Bienvenue dans le show. Mets-toi à l'aise. Vas-y, approche. À tes pieds, un compte en banque en béton. Oublie tes potes, mets des capotes mat comme c'est bon. Sois un bon noir comme fais voir ton instruction. Mets du black, beurre et intégration. Fais plaisir à la France et la France te le rendra. Si tu renonces, n'y pense même pas chez moi. Le monde appartient à ceux qui se vendent tôt. Vends-moi ton âme si tu veux passer sur ma radio. Sois subtil, prends des détours. Un chèque avec 5-0, ça vaut de loin tous les beaux discours. On marche avec toi tant que ça marche pour toi. Mais si tu tombes, rappelle-toi. On se connaît pas, et on lèche, on lâche, lâche, lâche. Bienvenue dans le showbiz. Fais-moi la bille, je ferai le toit.
On lèche, on lâche, on lâche.
Bienvenue dans le show.
On lèche, on lâche, on lâche.
Bienvenue dans le showbiz. Fais-moi la bille, je ferai le toit.
On lèche, on lâche, on lâche.
Bienvenue dans le show. Alors t'as voulu jouer les malins. Tu croyais être au top salope. Tu t'es endormi grâce à mes câlins. Mais c'est moi qui t'ai fait. T'as pas compris, sans ma promotion fiston, personne n'achète des saloperies. J'en ai marre d'investir sur toi. D'abord j'ai rempli mon contrat. Donc on est quitte,
vite barre-toi.
C'est pas chez moi qu'il faut faire la révolution. J'ai un nouveau poulain docile et lui ne pose pas de questions. T'es arrivé chez nous et tu t'es fait lécher. Mais t'as voulu aller trop loin, alors on t'a lâché. Et quand on lâche, on lynche. Dans l'industrie y'a trois mouvements. Tu sais ce qui t'attends mon grand.
1, 2, 3.
Bienvenue dans le showbiz. Fais-moi la bille, je fais le toit. Hein.
Que tu vois ça.
Bienvenue dans le show. Bienvenue dans le showbiz. Fais-moi la bille, je fais le toit. Hein. Bienvenue dans le show.
Show business.
Alors arrête un peu tes conneries avec ta morale.